Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission de ce mercredi 7 avril. Alors une émission que je vais aujourd'hui présenter tout seul. C'est la première fois depuis que Cinérama existe, c'est-à-dire 3 ans que je vais la présenter tout seul parce que Martin, d'après ce que j'ai compris, est en stage macramé du côté du Lot et que Boris est en stage intensif d'anglais du côté de Londres en buvant des Guinness. Voilà, donc j'espère que on sera une équipe un peu plus costaud la semaine prochaine. En tout cas, bien, ça va pas m'empêcher de remplir cette heure avec notamment un gros plan sur Arnaud Despalières. Arnaud Despalières, qui est un cinéaste courageux, qui sera présent ici cette semaine à Montpellier à partir d'aujourd'hui. Et ça commencera ce soir à 18h avec la projection de son premier long métrage, Drancy. Et ce sera à la médiathèque Federico Fellini. Donc on fera un gros plan sur Arnaud Despalières avec de larges extraits de ses films, parce que l'avantage de ce cinéaste, c'est qu'il utilise énormément le son, la voix, la tessiture, les ambiances, la musique. Donc on pourra faire un petit panorama de sa filmographie, avec notamment aussi une interview de Sergi Lopez, qui était venu présenter son dernier long métrage Parc, qui était sorti en janvier 2009. Et puis il y aura alors une toute petite chronique, celle du film de Frédéric Chignac, Le temps de la kermesse est terminé. C'est un film avec Stéphane Guillon. Alors j'ai voulu tenter de voir ce que valait le comédien Guillon. Mais avant d'entamer cette émission essentiellement consacrée à Arnaud Despalières, on va retrouver un petit montage. C'est celui du film de Mauvais sang, film de Léos Carax, que je porte parmi les meilleurs films de tous les temps. J'en avais fait un petit montage, alors c'est un vieux montage, mais que j'ai plaisir à vous faire réécouter.
De toute façon, il en avait fini avec moi.
Non, faut pas dire ça. Un jour, vous vous seriez retrouvés.
Un jour ou deux, peut-être.
Il lui a dit, veux-tu? Elle n'a dit ni oui ni non, c'est une fille avec un garçon.
Vous ne savez pas aimer ma fille, et jamais, jamais vous ne saurez.
T'es pas amoureux. Un jour tu comprendras.
Un jour ou deux, peut-être.
À l'œil, c'est à l'œil, suivez la main, suivez la main. Noir ça perd, rouge ça gagne. Je déplace et vous suivez, n'ayez pas peur de gagner. La carte rouge ici gagnée, la noire perd et perd. Qui l'a vu ? 100 francs. Qui l'a vu, qui la prend, qui la joue ? 100 francs, monsieur. 100, 200.
Lise, ma petite Lise, je pars. Lise t'aime et j'aime Lise. Je t'aimais. Mais aujourd'hui, la seule question qui me tracasse quand je te regarde, c'est si tu seras plus dégueulasse mort que vivant. Puis aussi... Non.
C'est une fille avec un garçon.
Allez, Lise. Je sais que t'auras ce message de distance. Rappelle-moi vite, il t'est arrivé une catastrophe.
Je t'ai trompée.
Tu comprends pas, Lise. T'as pas pu me tromper.
Alors c'est pas grave.
Non, tu comprends pas.
Tu m'en veux pas.
Tu comprends pas.
L'amour.
La première fois qu'une fille est tombée amoureuse de moi, je me suis dit, ça y est, les filles, les femmes sont amoureuses de moi. Puis cette fille et moi, on s'est quittés. Et j'ai pas compris. Quand d'autres filles que j'aimais m'ont pas aimé en retour.
Je t'aime.
Toi, c'est pire. La vie nous jette dans les bras l'un de l'autre, et toi, c'est idiot.
Non, je t'assure. J'aime les hommes grands. Grand. J'aime les hommes qui ont 20 ou 30 années d'avance sur moi. Ou de recul. J'aime un homme qui... J'aime un homme qui me rappelle un autre et tu me...
Arrête et me dis pas, tu peux pas comprendre. Je t'étrangle.
Bon, je recommence. À l'œil, c'est à l'œil. Suivez la main. La carte rouge ici, c'est gagné, c'est payé. À noir, père et père. Qui l'a vu, qui l'apprend, qui la joue. 100 francs, monsieur. 100. 200.
Le fameux Denis Lavant, dans ce film de Léos Carax, on a aussi entendu Michel Piccoli, Juliette Binoche et Julie Delpy. Voilà, c'était une forme d'introduction hein, pour une émission cinérama consacrée essentiellement eh bien, au cinéma qui met en avant le son avec celui d'Arnaud Despalières. Alors Arnaud Despalières donc, sera présent à Montpellier aujourd'hui, demain et vendredi pour présenter trois de ses films, donc à la médiathèque Federico Fellini, donc l'occasion d'en parler. Alors Arnaud Despalières a effectué de brèves études de littérature. Au théâtre, il joue quelques rôles et met en scène deux spectacles. Et étudiant en cinéma, il invite Gilles Deleuze à venir prononcer une conférence. Ses films, Gilles Deleuze, qu'est-ce que l'acte de création ? Ça, c'était en 88. Et puis ensuite, eh bien, il réalise plusieurs courts-métrages. Alors, il tourne un premier long-métrage de cinéma, Drancy Avenir, en 96, qui sera projeté ce soir à 18h à la médiathèque Fellini. Alors, c'est une enquête historique, poétique et philosophique avec trois récits qui évoquent l'extermination en France des Juifs d'Europe et ses traces dans notre monde d'aujourd'hui. Alors suivent deux moyens métrages pour la télévision, Is Dead, portrait incomplet de Gertrude Stein, ça c'est en 99. Donc ensuite arrive Disneyland, mon vieux pays natal, ça c'est en 2001, un court documentaire hein, de 40 minutes qui sera projeté, alors cette fois-ci c'est demain, jeudi à 18h à la médiathèque Fellini. Alors l'histoire de Disneyland, mon vieux pays natal, chaque année, eh bien, on peut dire que ce sont 12 millions de personnes hein, qui se rendent en Seine-et-Marne à l'usine à rêve de Disney, et Arnaud Despalières a fait ce voyage, il prend son RER, s'acquitte du prix, l'entrée se balade au milieu des décors de contes de fées, fait le grand 8, tout cela avec une caméra légère à la main comme n'importe quel touriste. Alors il n'enquête pas sur les rouages de l'usine Disney comme le ferait l'émission Capital hein, de M6. Son propos est ailleurs, il se demande si Disney n'achève pas le royaume de l'enfance. Rien que ça. Un documentaire à la première personne, c'était la forme imposée par Arte, pour qui Despalières a réalisé ce documentaire. Alors ce qu'il y a de remarquable dans le cinéma de Despalières, et c'est valable hein, pour ces documentaires, c'est la place donnée au son, à ce qui est dit bien sûr, mais aussi à la texture du son, la voix, la musique et l'ambiance. Alors pour Disney, mon vieux pays natal, les images ne répondent pas forcément à ce qu'on entend. Le son arrive en contrepoint, en décalage, en éclairage. Car après tout, on a là des images banales d'un touriste en tongs. Mais le montage, ce beau souci, hein, permet à Despalières de se libérer du folklore. Alors on entend d'abord la légende allemande du joueur de flûte, parabole inquiétante, où les habitants de la ville de Hamelin sont piégés aussi aisément que des rats. Et là, on est dans le train avec Arnaud Despalières, on écoute.
Je me souviens de l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Hamelin était cette ville de l'ancienne Allemagne qui avait été envahie par une marée de rats. On avait promis une forte récompense à qui saurait les exterminer. Un homme était venu, coiffé d'un chapeau vert. Il avait sorti une petite flûte de bois noir et avait joué une horrible musique, aigre et stridente. Ensorcelés, les rats avaient suivi l'homme et étaient allés se jeter par centaines de milliers dans le fleuve qui passait là. Mais la ville ne tint pas sa promesse et refusa de payer sa récompense à l'homme pour une tâche qui semblait si facile. L'homme quitta la ville sans protester, mais plus tard il revint. Il portait un chapeau rouge cette fois. Et il se mit à jouer un air si mélodieux avec sa petite flûte noire que les adultes en restèrent figés. Sous le charme de la flûte, tous les enfants de la ville suivirent l'homme, disparurent dans une caverne sous la montagne, et on ne les revit plus jamais. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas très bien la morale de cette histoire. Les enfants avaient-ils été punis pour la faute de leurs parents? Ou connaissaient-ils au contraire un bonheur désormais sans limite dans un monde enfin débarrassé des adultes, à jouer et à danser au son d'une musique merveilleuse? Ce matin, lundi 12 juin 2000, nous sommes 45 000 personnes à entreprendre le même voyage. 45 000 qui, probablement envoûtés comme je dois l'être moi-même, avons décidé de passer la journée dans un parc de loisirs appelé Disneyland. 12 millions l'ont fait l'année dernière. 12 millions le feront cette année. Depuis 8 ans que cet endroit existe, 85 millions d'hommes, de femmes, de vieillards, d'adolescents, d'enfants, de bébés se sont rendus au son du joueur de flûte de Disneyland Paris. Qu'a-t-on fait de tous ces gens ? C'est étrange que personne n'ait jamais raconté ce qu'ils étaient devenus. En entreprenant à mon tour ce voyage, j'ai en moi ce matin comme une petite zone d'inquiétude. Une question surtout me préoccupe, une plus que toutes les autres. Nous, je veux dire les 45 000 personnes qui, ce matin, parties de Paris, de banlieue, des campagnes environnantes ou d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, nous, les 45 000 qui serons à Disneyland aujourd'hui, serons-nous les enfants de l'histoire ou n'en serons-nous que les rats ? La musique qui nous attire est-elle aussi brillante que l'eau qui court au soleil ? Ou bien est-elle incohérente et triste, d'une aigreur à serrer le cœur et à faire se dresser les cheveux sur la tête ? Quand je serai à Disneyland, je chercherai la caverne, cachée sous la montagne. Je me mettrai à genoux et je poserai mon oreille contre le rocher. Peut-être qu'alors, j'entendrai des chansons, des rires, et le bruit de centaines de milliers de petits pieds battant le sol en cadence, au son d'une musique merveilleuse. Celle du joueur, bien sûr. Le joueur de flûte.
Voilà donc comment est introduit le sujet. Alors, étrange parabole, et si nous allions à Disney habités par cette musique du joueur de flûte ? Alors, on le sent dans le ton de la voix et du discours, hein, ça n'est pas très gai, ambiance inquiétante, raison ou mélancolie servent le propos. Mais un moment, au détour d'une image d'un dingo gesticulant, voilà ce que De Palière nous dit. Alors là encore, c'est un large extrait, mais ça vaut le coup.
Aujourd'hui, j'ai rencontré Dingo. Il est soucieux parce qu'hier, il est allé voir la direction pour la première fois. Les costumes sont froids en hiver, chauds en été, la vision et la respiration difficiles, et rien n'a vraiment été prévu pour aller aux toilettes. Alors Mickey, Minnie, Pluto et Donald l'ont élu délégué et lui ont demandé d'obtenir de la direction qu'elle supprime ses inconvénients. On lui a indiqué le bureau compétent. Il a frappé et il est entré. Un jeune homme lui a souri de derrière sa grande table de travail. Dingo ne savait pas s'il devait s'asseoir. Il y avait bien une chaise, mais il pensait que ce n'était pas convenable de s'y asseoir dès sa première visite. Il a donc raconté son histoire debout. Quand il a eu fini, l'homme qui l'écoutait s'est levé lentement, lui a tapé sur l'épaule en disant
« Notre directeur est jeune. Il a de grands projets. » Et un seul d'entre vous lui importe autant que tous. Il est capable de passer des journées entières avec je ne sais quel petit employé insignifiant comme toi. Il s'assoit avec lui sur une chaise, genou contre genou. Il le tient embrassé. Il réquisitionne son oreille, à laquelle rien d'autre n'a plus accès, et il se met à l'écoute. Il ne juge pas utile de pousser le personnel à travailler. Celui que sa propre raison ne conduit pas à travailler le mieux possible, celui-là, d'après lui, ne fera jamais un bon employé. Il sentira lui-même si fort à quel point il est déplacé qu'il n'attendra pas d'être renvoyé et il partira de sa propre initiative. Et ça se fera si vite que ni l'entreprise ni l'employé n'auront beaucoup à en souffrir.
Et l'a poussé doucement dans la pièce voisine où le responsable les attendait. Quelques mots chuchotés par le jeune homme ont suffi au responsable pour saisir le sujet de la plainte. Le responsable s'est levé, Dingo allait se présenter, mais le responsable lui a coupé la parole.
Oui, c'est bon, je te connais très bien. Ta demande est certainement justifiée. Moi et ces messieurs de la direction, on serait les derniers à ne pas le reconnaître. Crois-moi, le bien-être des employés nous tient plus à cœur que les bénéfices de l'entreprise. L'entreprise peut toujours être perfectionnée, ça ne coûte que de l'argent. L'argent n'est pas un problème. Mais qu'un employé risque de tomber malade, c'est pour nous beaucoup plus embêtant. C'est pourquoi tout projet visant à introduire de nouvelles mesures de sécurité, de nouveaux allègements, de nouvelles commodités, nous intéresse plus que tu ne penses. Tu vas donc nous laisser tes suggestions et on les examinera avec attention. S'il faut encore y ajouter je ne sais quelle petite innovation éblouissante, on ne la rejettera certainement pas. Et dès que ce sera fini, vous aurez vos costumes neufs. Un pour l'été, un pour l'hiver.
Quant aux commodités d'hygiène, de vision et de respiration, on allait étudier des solutions appropriées et on les intégrerait aux nouveaux costumes. C'était bien ça ? Dingo était stupéfait. Il a répondu
« Oui, c'était bien ça la revendication. »
Alors, le responsable a pris Dingo par l'épaule et l'a accompagné jusque sur le seuil du bâtiment des bureaux en lui disant
« Maintenant, dis bien à tes collègues du parc que tant que la direction n'aura pas fait de votre lieu de travail un salon, un lieu de bonheur et de confort, elle ne connaîtra pas le repos. Et elle ne le connaîtra plus jamais si, à la fin des fins, sur votre lit de mort, vous ne mourrez pas tous le sourire aux lèvres en repensant à l'époque heureuse où vous étiez employé dans l'entreprise. »
Là-dessus, le responsable qui raccompagnait Dingo a tourné le dos et il a regagné son bureau. Aujourd'hui, Dingo a repris le travail. Il a confiance. Tout devrait s'arranger.
Voilà juste une vision de l'envers du décor. Et on se souvient peut-être que la direction de Disney a eu quelques soucis avec son personnel lors de l'ouverture du parc d'attractions. Alors Disneyland est-il le suicide programmé du monde de l'enfance ? À vous d'en tirer les conclusions à la vision de ce documentaire taillé sur mesure. Alors il sera projeté donc demain à 18h en présence évidemment de Arnaud Despalières. Ce sera donc à la médiathèque Fellini. Alors c'est en 2004 qu'il attaque son second long métrage « Adieu » avec Michael Lonsdale, Aurore Clément, Laurent Lucas et Olivier Gourmet. C'est un film audacieux, courageux, inclassable, on dirait une envolée poético-politico-philosophique, rien que ça. Un film aride, sûrement, bavard parfois, mais de l'art cinématographique sûrement. Alors on suit deux histoires qui ne se rejoindront jamais et dont le seul lien est un personnage très secondaire. L'histoire d'Ismaël, tout d'abord un Algérien menacé dans son pays qui veut rejoindre la France et un vieil agriculteur perd son jeune fils et tombe dans la mélancolie. Il lui en reste trois de fils qui le soutiennent. Alors l'adieu du titre renvoie à l'au revoir radical mais aussi à la relation, à la religion, à la foi. Le film commence avec un travelling sur une chaîne de montage de camions avec une partition musicale préparée par Martin Wheeler, une musique métallique de plus en plus riche en basse, inquiétante. Alors que viennent faire ces monstres de la route dans un pareil film ? Eh bien c'est peut-être parce qu'ils servent à transporter marchandises ou clandestins, c'est selon. Alors la musique n'est jamais classique chez Despalières, elle est radicale. Comme la voix off, il y a plusieurs récits qui s'entrecroisent dans Adieu, mais le plus prenant est celui d'Ismaël qui raconte d'abord son histoire.
Leïla, mon amour, tu me demandes des nouvelles d'ici. Ils ont tué la mère. Détruit le centre d'apprentissage, brûlé l'école, tranché la gorge du vieil Ahmed et fermé son café. Ils ont tué les mères de plusieurs appelés qui les connaissaient et accroché leur tête à des plaques de signalisation routière. Il y a une semaine, un vieux m'a arrêté dans la rue et a pris le livre que j'avais à la main. C'était des poèmes de mon père. Il voulait m'en montrer la perversité cachée. Je me suis sauvé. Il a gardé le livre. Le lendemain, j'ai bu avec les amis. Après les avoir accompagnés dehors, je me suis endormi dans la rue. Le matin, j'étais réveillé par le même vieux qui me demandait si je n'étais pas le fils de Haddou. Tu imagines ce que j'ai répondu. Il a insisté. C'est pas toi, Ismaël, le fils de Haddou ? Je réponds que je connais pas de Haddou. Il demande comment je m'appelle. J'ai dit Ismaël. Mais alors ton père, c'est bien Haddou Ben Halal et ta mère, c'est bien Mimouna. Je réponds que non. Il demande le nom de mon père. Je réponds que mon père est mort quand j'étais dans le ventre de ma mère. Il m'a regardé. Il a soupiré que c'était la volonté de Dieu et m'a tendu deux pièces pour que j'achète à manger. J'ai dit que j'avais de l'argent, que j'avais à manger, que j'avais besoin de rien. Il s'est mis à crier. Comment tu as de l'argent et tu dors dans la rue comme les chats ? Tu es fou, quoi. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit « Le vieux chat, c'est toi » et j'ai miaulé le plus fort que j'ai pu. Il s'est sauvé en disant qu'Allah le préserve des enfants de cette époque. Hier, en rentrant, j'ai trouvé la chambre de notre fille saccagée, avec des menaces écrites sur les murs pour dire qu'il me tuerait. Leïla, mon cœur, personne n'aura l'idée de vous chercher là où vous êtes, mais tenter de vous rejoindre risquerait de les conduire jusqu'à vous. Si j'ai réussi à m'enfuir et que j'arrive en France, je serai au moins réconforté par cette idée que ce n'est pas pour être heureux, mais pour vivre dans une nouvelle inquiétude qui vaut peut-être celle dans laquelle nous vivons ici aujourd'hui. La France, je m'en fiche, je ne veux même pas savoir qui sont les Français. Sitôt arrivé, je me mettrai à travailler. Là-bas aussi, il y a des coins perdus. Au bout d'un an ou deux, j'aurai de quoi vivre jusqu'à ce que les choses deviennent autrement. Alors je reviendrai en Algérie. Leïla, mon amour, j'emmène avec moi tout ce que je sais de chez nous. Des années d'une vie à laquelle je ne sais quand je retournerai. Et déjà, ça me paraît avoir été la vie d'un autre. Un autre qui aurait vaguement eu mon corps et mon esprit. Peut-être que le seul moyen d'être dans un endroit, d'y être vraiment, c'est d'en être loin et de le regretter. Dis à notre princesse que mes prochaines lettres seront pour elle. Serre-la pour moi contre toi, comme je te serre à mon tour contre mon cœur. Ton Ismaël.
Voilà, extrait, premier extrait hein, du film Adieu. Alors évidemment, on sent hein, la présence de cette voix off, on sent aussi la musique en arrière-fond. Et puis, bien, ce qu'on ne voit pas forcément à la radio, eh bien, ce sont les images, parce qu'il y a aussi des images, une espèce de montage comme ça qui arrive avec de nombreuses images et qui montre un peu la vie d'Ismaël là-bas, du côté de l'Algérie. Alors, on l'entend... Ismaël commence à raconter son histoire, puis ensuite, quand il écrit non plus à sa femme mais à sa fille, c'est une toute autre histoire qu'il raconte, celle de Jonas et de la baleine. Alors, un Jonas biblique qui désobéit à Dieu, et l'histoire de Jonas répond à celle d'un clandestin. La baleine qu'il avale dans la tradition devient un avion charter, et le capitaine est un passeur ou un employeur du BTP qui ne rechigne pas à embaucher un sans-papier. On peut tout imaginer.
Tu te souviens, mon adoré, que le capitaine auquel avait affaire Jonas était un de ces hommes capables de découvrir le crime chez quiconque, mais qui, dans leur cupidité, ne le dénoncent que lorsqu'il s'agit d'hommes sans argent. Dans ce monde, le péché qui paye le prix du passage peut voyager partout et sans passeport, alors que la vertu, qui est pauvre, est arrêté à toutes les frontières. Avant de porter son jugement, le capitaine veut d'abord soupeser la bourse de Jonas. Il lui demande le triple du prix habituel. Et Jonas est d'accord. Le capitaine comprend alors que Jonas est un fugitif. Mais il décide de ne rien dire, car il sait que sa fuite peut lui rapporter beaucoup. Quand Jonas sort sa bourse, le capitaine fait sonner chaque pièce d'argent, puis se dit en lui-même : « En tout cas, cet homme n'est pas un faux monnayeur. » Sur quoi, Jonas est inscrit comme passager.
Voilà, donc l'histoire de Jonas hein, qui se poursuit en plusieurs tableaux, puisqu'on suit toujours cet Ismaël qui part de l'Algérie jusqu'en France. Alors le film se termine hein, avec cette voix off qui nous raconte la difficulté d'être né quelque part pour celui qui est né, hein, comme dirait la chanson. Je vous laisse le plaisir d'aller jusqu'au bout d'Adieu pour saisir la portée philosophique et politique de notre monde où les frontières et l'argent dominent les ambitions. Alors il y a d'autres voix dans ce film et d'autres enjeux que l'adieu à son pays. Il y a aussi la question de la mort et du deuil. Et cette fois-ci, eh bien, on va écouter la voix de Monsieur le curé.
La perte d'un être aimé, mes frères, n'a vraiment rien d'exceptionnel, sauf pour celui qui le pleure. Il perd avec lui tout sens de ce qui est habituel et s'enfonce dans une éternelle hésitation entre ce qui est vivant et ce qui aurait pu le rester.
Alors voilà, ben là encore, hein, c'est le petit côté magistral et qui s'entend, hein, pour le coup, même à la radio. Vous avez pu entendre en arrière-fond, pareil, qui est un personnage qui dit papa, papa, tout simplement, et bien parce que cette voix du prêtre, c'est la séquence suivante. Alors on entend déjà la voix de la séquence suivante, mais on reste finalement sur des images de la séquence précédente. Voilà. Donc c'est un mélange de sons, adieu, plutôt bien fichu. Alors bien là, dans le propos, il est clair qu'on doit tous mourir, hein, un jour ou l'autre, mais on espère plutôt l'autre. Un drame, une disparition, une condition qui ne manque pas de nous renvoyer au doute, alors doute de l'existence d'un dieu. Et lors du repas, suite aux obsèques, les questions frontales ne manquent pas. Alors après, qu'est-ce qui fait penser qu'il y a un dieu? Voilà la question qui est posée au prêtre qui se sent mal.
Pourquoi vous ne me dites pas ce que vous avez demandé?
Et si tu le recevais pas?
Mon père, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a un dieu?
La foi?
Oui, à part la foi.
Il y a la preuve ontologique, l'argument de saint Anselme selon lequel, si un tel être peut être imaginé...
Pourquoi est-ce que les hommes souffrent? La moindre contraction de douleur menace l'existence de Dieu. C'est même la principale raison de l'athéisme.
La preuve ontologique, c'est une preuve?
C'est un argument.
Mais des preuves, il y a des preuves de l'existence de Dieu?
Il y a des arguments. L'argument biologique de Teilhard de Chardin sur l'évolution. L'existence même de l'évolution semble indiquer un concepteur. L'argument de Morrison... qui s'appuie sur l'hospitalité de notre planète, forme complexe de vie. Les chances pour qu'une telle situation se soit produite par hasard sont très minces. C'est l'argument téléologique. Celui du dessein contenu dans la nature.
C'est tout?
Je regrette, je me sens pas très bien. Si vous voulez bien, on discutera de ça une autre fois.
Les preuves de l'existence de Dieu sont la preuve que Dieu n'existe pas, puisqu'on utilise tant de preuves. N'est-ce pas, monsieur le curé?
Écoute, monsieur le curé est fatigué.
Monsieur le curé est fatigué. Monsieur le curé est trop fatigué pour répondre quand on lui demande s'il y a une preuve de l'existence de Dieu.
Vous n'auriez pas de l'aspirine?
Non, bien sûr, il n'y a pas de preuve. Tout le monde sait ça, enfin.
Dans l'Ancien Testament... Dieu parlait aux hommes. À travers les prophètes. Mais... aujourd'hui, c'est fini. Dieu ne parle plus à l'homme. On appelle ça le long silence. Et ça dure depuis 2000 ans.
Eh oui, ça dure depuis 2000 ans, donc Eh bien, forcément, le prêtre est un peu contrarié, hein, qui fera sa petite crise de foi par la suite. Alors, le propos de Despalières n'est pas de supprimer Dieu et de se poser en athée radical, hein, mais c'est plutôt un propos métaphysique. Alors, on a entendu, encore une fois, dans cette scène, bon, qui est plutôt grave, eh bien, qu'en fond, toujours, il y avait des chiens qui aboyaient. Voilà, c'est ce qu'on entend très clairement. Hein. Il l'a fait, évidemment, exprès. On est dans une ferme avec des agriculteurs. Et il n'oublie pas ce petit détail. Et puis, bah, ça fait aussi un petit son inquiétant derrière tous ces propos. Alors, le casting est impressionnant. Hein. On a entendu Olivier Gourmet, qui s'énerve un peu. On a entendu Laurent Lucas. Et on n'a pas entendu, en revanche, Michael Lonsdale. Et il y aura même une apparition sonore de Mathieu Amalric qui nous chuchotera quelques pensées vers la fin du film. Alors, Adieu est un objet filmique à part, avec une lumière soignée, un son sculpté, avec une petite intrigue. Alors, le mieux est de se laisser porter. Ça n'est pas toujours facile, tant la forme est parfois aride. Mais ça vaut le coup, car de pareils films, eh bien, il ne s'en produit qu'un ou deux tous les 10 ans. Voilà, c'est mon avis. Donc, si vous voulez, si vous l'avez raté, surtout au cinéma en 2015, eh bien, vous pouvez aller le revoir. Ce sera cette fois-ci eh bien, à 16h, toujours à la médiathèque Fellini, en présence évidemment d'Arnaud Despalières qui ne manquera pas eh bien, de vous éclairer et de m'éclairer moi aussi parce que j'en ai pas fini avec ce film. Et eh bien, si tout va bien, je pourrais faire une interview de Arnaud Despalières demain. Alors après Adieu, eh bien il y aura Parc. Parc, c'était en janvier 2009, même si le film a été tourné bien avant. Alors c'est adapté d'un roman de John Cheever. C'est l'histoire de Georges Clou qui vit dans une de ses banlieues résidentielles fermées. Marié, il part au bureau le matin, va à la messe le dimanche, aime sa femme, son fils, rien ne dépasse. Et puis il y a Paul Marteau qui est jeune, lui arrive dans cette banlieue aseptisée et il est partagé entre la sévérité du jugement qu'il porte sur le monde et son désir malgré tout d'y appartenir. Marteau va rencontrer Clou et voudra faire un exemple en crucifiant Clou, histoire de sacrifier l'idéal de bonheur de l'homme occidental. Alors, Parc est moins fulgurant qu'Adieu, la forme obéit aux mêmes règles, image superbe, contrepoint du son, montage alterné, mais le propos est presque artificiel avec une histoire un peu trop irréaliste, mais il y a quand même quelques scènes époustouflantes et quelques phrases glaçantes comme celle que lâche le fils adolescent de Monsieur Clou qui est effrayé à l'idée que sa conscience soit débranchée comme on éteindrait une télé en poussant un bouton. Alors, nous avions rencontré Sergi Lopez qui incarnait Monsieur Clou, c'était en janvier 2009. Alors lui, il venait présenter Ricky, hein, le film de François Ozon dans lequel il jouait aussi. Mais j'ai bien senti qu'il préférait parler de Parc. On l'écoute.
Sergi, et le nom de famille comme mamie, c'est le même que mon père et que mon frère, c'est Lopez. Donc, je suis Sergi Lopez.
Do you know what should be done?
No.
One should take up residence in a place like Le Parc. Buy a house there and melt into the background.
Bonsoir.
Have people over for dinner. Everything so that the project remains a secret.
Parc, c'est un scénario qui m'a hypnotisé. Un peu comme dans le film. Hein. Même si le film, il va beaucoup plus loin que le scénario. C'est-à-dire que je trouve que c'est un vrai, pour moi, hein. Enfin, je suis spécialement fier d'avoir ce film avec moi, de pouvoir dire que j'ai participé dans ce film. C'est un film qui, pour moi, c'est du cinéma... du grand cinéma, c'est-à-dire il y a plein de choses qui sont dans le film qui sont du cinéma, qui ne sont pas de l'ordre d'un dialogue ou d'un personnage ou d'un rapport entre deux personnages. C'est vraiment, il y a vraiment des images, il y a du son, il y a de la mise en scène, mais à fond.
What project?
I would choose a man dans la force de l'âge, married, one child, perfect example of a life void of any real emotion.
On a tous trop accepté l'idée que les bons films, les bonnes choses, c'est des choses qui se définissent avec peu de mots. Arnaud Despalières, Parc, ça ne peut pas se définir avec peu de mots. C'est un film très complexe. Il y a des textes, il y a un dialogue, une vraie belle écriture, mais il y a du cinéma, il y a des images, il y a plein de trucs. Ça parle d'aujourd'hui, c'est très contemporain, c'est pas raconté d'une façon linéaire. Alors, tu vois, c'est un film qui dérange.
What would you do?
Crucify him.
Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'au bout de 3 scènes, tu te rends compte qu'en fait, tu dis, ah bon, tout ça, en fait, ça s'est passé. Ah oui, donc tu vois apparaître un personnage et tu dis, ah, en fait, tout ça, c'était avant le début du film. Mais tu n'as pas le temps de faire marche arrière. Tu n'as pas le temps de dire... Et c'est fait exprès parce que justement, ça parle beaucoup de la perte, de la peur qu'on a, elle, M. Clou et M. Marteau, donc les deux personnages principaux du film, ces deux univers, disons, antérieurs, alors qu'ils sont tous les deux inscrits dans un parc, donc un quartier résidentiel de haute sécurité. Moi, je crois que ça parle de nous, ça parle de la société occidentale, où nous, on trouve normal qu'il y a de la lumière, qu'on ouvre un robinet, il y a de l'eau. On trouve ça complètement normal, qu'il y a des taxis, que les choses marchent, que tu sors dans la rue et qu'on ne se fait pas tuer. Et on a un confort, et le film parle de ça, la peur qu'on peut avoir quand plus on a des choses, plus on a peur de les perdre. Et c'est, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, c'est vraiment un point très important de la société dans laquelle on vit, dans le monde capitaliste. La solution qu'il nous propose, c'est de se défendre. Se défendre de quoi? De quelque chose qui pourra tuer nos enfants, alors que il n'y a rien qui fait plus peur que notre peur. Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que soi-même. Donc voilà, cet ennemi que nous sommes, c'est incarné par Jean-Marc Barr, qui joue dans le film Paul Marteau. Et moi, j'ai joué Georges Clou, donc a priori, le mec qui a rentré dans les cadres que la société lui propose, quelqu'un qui a une famille, une femme très jolie, avec qui ils font l'amour d'une façon... Enfin, il y a quand même dans les films, tu vois, il y a des scènes brutales.
C'est votre fils que j'ai vu garer les voitures chez les Lebrun.
Tony.
Oui.
Ça lui fait un peu d'argent de poche.
Justement, vous parlez de cette scène d'amour qui n'arrive pas par hasard, qui a une certaine longueur, comme beaucoup de séquences du film d'ailleurs. On peut juste dire que votre enfant, lui, il a un problème, il ne vous parle plus, il s'enferme dans sa chambre et il a une vision horrible, enfin une pensée horrible, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être dans une série télé et qu'on pourrait l'éteindre à tout moment. Donc c'est absolument angoissant. Vous essayez de jouer votre rôle de père, c'est pas évident, jusqu'au moment où vers la fin du film, voilà, il va mieux, et vous, on a l'impression que vous êtes complètement relâché, qu'avec votre femme, quelque chose d'autre s'installe. Il y a cette scène d'amour qui débarque, que certains ont vécu difficilement, parce que c'est des scènes d'amour qu'on ne voit plus au cinéma. Vous êtes filmé de manière frontale, en plein jour, vous avez plus de 45 ans, on peut l'imaginer. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne voit jamais au cinéma. On vous voit pendant que vous faites l'amour, et on vous voit surtout après, pendant que vous vous calmez, vous continuez à la caresser. Enfin, c'est absolument sensuel, mais des gens passent à côté, alors pourquoi ?
Les gens passent à côté. J'ai
l'impression.
Moi, c'est pas seulement que pour cette scène, il y a d'autres scènes, mais c'est que pour des scènes comme ça que j'ai fait du cinéma. Et que c'est que pour des scènes comme ça que j'aime bien voir des films. Pour voir justement des scènes qui sortent de la convention. C'est-à-dire, il y a une scène d'amour où t'as l'impression, enfin, ça dure, et ça le tente. Et c'est ça qui est super, moi, je trouve, que ça le tente de gêner. Et que comme spectateur, il y a un moment donné où t'es gêné parce que t'as compris. Mais moi, ça, c'est la phrase que j'entends deux fois et que je déteste. La phrase de « oui, d'accord, on a compris ». Mais le cinéma, la vie, il ne s'agit pas de comprendre seulement. Il s'agit aussi de sentir, de laisser que les choses aillent en temps. Que, tu sais pas, il y a un auteur qui nous propose un temps, qui nous propose une histoire. Moi, j'adore cette scène. C'est vrai que c'est une scène d'amour très longue et c'est vrai qu'on ne l'a jamais vue. C'est pas... Anjoli, tu vois, normalement les scènes d'amour, je sais pas comment c'est dit Anjoli, mais la lumière elle est très traumatisée, il y a un filtre, les seins de l'actrice on le voit, mais il faut que ça soit joli, alors que là c'est une scène vraie, tu vois, un couple de 40 quelques qui font l'amour, et putain, tu y crois, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça a un sens dans l'écriture, et dans la ligne, dans l'argument, c'est le moment où les parents sont relâchés, et il baisse sa garde, que l'enfant, il s'est fait kidnapper, en fait, tu vois. Et c'est terrible, parce que tu es en train de voir que l'enfant, il lui arrive quelque chose d'horrible, alors que les autres, ils sont en train de faire... Enfin, moi, je trouve ça brillant, comme autant de choses dans le film, il y a beaucoup de choses dans le film que je trouve brillant dans l'écriture et qu'en même temps, je trouve qu'il parle vraiment d'aujourd'hui. Moi, je comprends que ce film, c'est un film qui dérange parce que je crois qu'on ne peut pas tout comprendre.
C'est votre fils que j'ai vu garer les voitures chez les Lebrun.
Tony.
Oui.
Ça lui fait un peu d'argent de poche.
Il y a cette scène d'amour, donc qui est un plan séquence. Il y a un autre plan séquence qui est complètement différent, à l'opposé, C'est celle où vous prenez votre tronçonneuse, méticuleusement, vous préparez votre tronçonneuse et ensuite vous allez élaguer. Voilà. Ça aussi, ben, j'ai l'impression que, enfin bon, pour le peu qu'on m'en ait parlé, les personnes se disent, bon bah oui, je crois que même c'est une critique du canard enchaîné, où on dit, bon bah oui, on le voit prendre sa tronçonneuse, mais à quoi bon ? Voilà, donc là on a deux plans séquences. Est-ce que vous... je crois.
Putain, le canard enchaîné, alors que j'adore, mais on peut pas être plus con que ça. C'est vrai, moi j'ai pas lu ça. Putain, pourtant j'aime bien.
Ils l'ont pas aimé.
C'est ça qui est dommage. Bon, c'est toujours. Enfin, il y a l'humour, ouais, d'accord. Mais la tronçonneuse, mais je ne sais pas. La tronçonneuse, en tout cas, tu vois, c'est chacun. Enfin, on vit dans. Enfin, le monde que nous propose Arnaud et sur lequel on parle, c'est la société capitaliste aujourd'hui où les peurs. Donc, une tronçonneuse, c'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose qui puissant. C'est le pouvoir. C'est l'arme. C'est quelque chose qui. Tu peux couper, ben ça, tu vois, tu l'achètes et tu le gardes et dans la sécurité de chez toi avec tes petits arbres de merde, le riche là en l'occurrence Georges Clou, il s'éclate comme un fou à couper des arbres et moi je trouve qu'il y a un plaisir même sensuel au niveau de la peau qu'on comprend tous, c'est-à-dire avoir une petite tronçonneuse et défoncer un arbre, c'est quelque chose d'infantile de que voilà que fait, on voit bien quand il coupe l'arbre que c'est pas un nettoyage, on sent qu'il y a un plaisir, c'est-à-dire la même branche il la coupe par 40 bouts, tu vois, parce qu'il y a le plaisir d'utiliser cette espèce de pouvoir et de finalement de te sentir que c'est toi qui mène la vie alors que t'as la truie qui te dévore en fait.
Il n'y a pas de plan large, hein. De toute façon on voit pas ce qu'il fait vraiment, si c'est utile pas utile, on a non, plutôt non, l'impression que c'est sain pour
ouais.
lui.
Ouais, enfin, moi je trouve qu'il y prend du plaisir. Enfin, moi j'en ai pris en le jouant.
To wake up the world. Crucifixion seems the minimum.
Putain, le canard enchaîné alors que j'adore, mais on peut pas être plus con que ça. Putain, moi c'est pas seulement que pour cette scène, il y a d'autres scènes, mais c'est que pour des scènes comme ça que j'ai fait du cinéma.
C'était Sergi Lopez qu'on avait rencontré, donc c'était en janvier 2009. Il était venu au Diagonal donc présenter le film de François Ozon, Ricky. Il a pu me parler de Parc et je sentais qu'il en avait bien besoin. Alors Parc, film de Arnaud Despalières. Alors ce sera bien le seul film, hein, qui ne sera pas projeté lors de ces rencontres qui sont organisées donc à la médiathèque Fellini à Montpellier. Alors je vous répète le programme, ce mercredi 7 avril à 18h, donc il y aura la projection de Drancy à venir. Demain à 18h, il y aura la projection de Disneyland, mon vieux pays natal, toujours en présence du réalisateur évidemment. Et puis ensuite, eh bien, ce sera vendredi à 16h, il y aura la projection du film Adieu. Voilà, on a donné une large place aux extraits sonores. J'aurais pu en choisir encore plein d'autres, faire même une émission d'une heure rien qu'avec des extraits des films d'Arnaud Despalières. Avant de retrouver une chronique sur Le temps de la kermesse est terminé, film de Frédéric Chignac avec Stéphane Guillon, eh bien, on va faire un petit détour vers une bande originale de film. hommage version électro eh bien, à Ennio Morricone. Hein, c'était le groupe Pram avec Track of the Cat, extrait de la bande originale du film de David Mackenzie. Voilà, My Name is Alan Faux. C'était sorti il y a 2 ans. C'était pendant l'été et peut-être que vous êtes passé à côté et il doit être disponible en DVD. Alors passons maintenant eh bien, au temps de la kermesse est terminée, réalisé par Frédéric Chignac avec Stéphane Guillon et Aïssa Maïga. Alors Stéphane Guillon, acteur, on connaît bien le Stéphane Guillon humoriste, chroniqueur à la télé et à la radio, car à moins d'avoir fait les repérages de l'expédition de Jean-Louis Etienne au Pôle Nord, vous n'avez pas pu manquer dans la presse, à la télé, à la radio, la prise de bec récente entre Éric Besson, le ministre de l'Immigration, et le chroniqueur de France Inter. Alors on sait que le casting d'un film, aussi sûrement que l'affiche, que le scénario sont des ingrédients qui vont susciter ou non l'envie de se caler dans un siège molletonné en ayant acquitté les 5 ou 10 euros de la place de cinéma. Alors il y a même de mauvais films hein, qui réalisent de bonnes recettes juste parce que tel acteur y interprète le rôle principal. Il y a aussi des réalisateurs qui font le choix de ne prendre que des inconnus du grand public, soit bien des non-comédiens, soit des comédiens de théâtre. Alors on peut citer Robert Bresson, l'auteur de Pickpocket ou Mouchette, n'a jamais fait tourner de grands comédiens et c'était un parti pris artistique. Laurent Cantet, le réalisateur de Ressources humaines ou d'Entre les murs, n'a que rarement choisi des acteurs familiers. Alors un des avantages de cette formule, c'est que le spectateur n'est pas à distance du sujet. Si on voit Depardieu, Cornillac ou même Auteuil, il y a toujours le risque qu'on se complaise à regarder un jeu d'acteur plutôt qu'un personnage, plutôt qu'un sujet. Eh bien, quand on regarde Stéphane Guillon dans un film dont il tient le rôle principal, on est toujours sur ses gardes, car on prend le risque à tout moment, au détour d'une mimique, d'une expression, de le voir en chroniqueur impertinent plutôt qu'en acteur censé embrasser un rôle et porter un film. Et là, eh bien, dans le temps de la kermesse est terminée, Stéphane Guillon, interprétant Alex, est planté à Koupala, un petit village d'un pays africain, en panne de voiture. Il va devoir attendre qu'on le secoure. Alors bon, dans ce village traversé par une piste, il y a un semblant de service avec un type qui fait épicerie, bar, station essence, cantine et hôtel. Et Alex, eh bien, il est blanc, il a de l'argent, donc tout va bien, il ne mourra pas de faim ni de soif. Il n'empêche qu'il est dans les travaux publics et qu'il doit rejoindre un chantier. Alors Alex est comme beaucoup de blancs en Afrique, on ne sait pas si c'est l'amour du pays, de la civilisation ou le moyen de faire de l'argent qui motive le séjour ou encore même ce sentiment de puissance d'être un blanc parmi les noirs. Alex, en France, aurait-il de l'argent? On ne sait pas. En tout cas, il n'est pas pressé d'y rentrer. Alex, en Afrique, il a de l'argent et parle aux Africains comme à des sujets. Son objectif, c'est de faire démarrer sa vieille Merco. Et pour ça, eh bien, il est aidé par des jeunes du village qui doivent la pousser en haut d'une côte. Et c'est une entreprise plutôt délicate.
C'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon?
C'est 1300.
Ah, 1300, c'est quand tu remontes la voiture jusqu'à la pierre qu'on avait dit. Là, la voiture, elle est entre la pierre et le bas de la côte. Alors je te donne la moitié de 1300. C'est juste, non? Tu sais compter?
Tu l'as donné tout l'argent.
Je vais pas tout te donner alors que t'as remonté la voiture que jusque-là.
Il a raison. Il faut donner tout l'argent. C'est pas beau comme ça.
Mais comment?
Ce n'est pas le bon calcul.
On
va partir chez nous.
Putain, c'est trop facile, ça. Vous faites la moitié du boulot et vous voulez tout toucher. Imagine que tu montes la voiture jusqu'en haut. Et que je te donne que la moitié, tu serais pas content? Eh bien là, c'est pareil. Vous respectez pas la parole. C'est bon, revenez, revenez. Ça, pour sucer le blanc, vous savez faire, hein? Là, là, vous en connaissez un rayon, hein? Allez, alignez-vous, devant moi. Allez, dépêchez-vous. Allez, à la queue-le-le, devant moi. Je vois qu'une tête. T'es qui, toi? T'étais pas là hier? Passe pas inaperçu en plus, hein? Allez, écarte-toi. Allez, dégage, dégage. Dégage, Célie, dégage! Et quand je vous ai payé, vous passez derrière moi! Il manquerait plus que je vous paye 2 fois pour un boulot que vous avez fait qu'à moitié.
Voilà, donc Stéphane Guillon, hein, qui interprète cet Alex. Alors, on le voit bien, eh bien, Il n'est pas forcément tendre avec la population. Alors le temps de la kermesse est terminé, avance ainsi, hein, rythmé par les tentatives de démarrage de cette voiture capricieuse, rythmé par l'attente, l'ennui aussi, et quelques rencontres comme celle du capitaine de la caserne surplombant le village. Un capitaine qui cultive ses salades, un type qui a fait ses études à Strasbourg et qui a pratiqué l'homme blanc. Alors c'est lui qui sortira la formule du titre, une référence au colonialisme, un appel plutôt à l'émancipation. Alex rencontrera aussi le chef du village qui demande une pension de guerre, un villageois banni aussi, et puis Martina, une jeune femme mystérieuse, docile, qui voudrait partir en France avec Alex.
Je t'emmènerai pas, Martina. Faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Je lui ai dit au chef, c'est pas une bonne idée.
Je dois aller.
Tu dois rien. Il délire le chef, il est vieux. Il se rend pas compte. Tu ferais quoi en France, hein? Qu'est-ce que tu sais faire?
Je sais faire le riz.
C'est pas un métier, faire le riz. Faire le riz. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Tôt ou tard, tu vas faire boutique mon cul. Tu vas vieillir. À toute vitesse. T'entends? Même si je voulais t'emmener en France, ça marcherait pas, on passerait pas la frontière. C'est trop dur.
Je dois aider le village.
T'as parlé de la France avec le banni?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il dit qu'il y a l'argent.
Il y a l'argent, mais bien sûr qu'il y a l'argent. Il y a la misère aussi. Il te l'a dit, ça? Tout le monde veut l'argent. Moi aussi, je le veux, l'argent. Mais l'argent, il sera pas pour toi. Ouais, il faudra que tu couches avec tous les hommes. C'est ça que tu veux? Là, pour moi.
Alors pourquoi Martina doit-elle partir? Quel est ce banni? Alex redémarrera-t-il sa merco? Voilà les éléments d'un suspense de ce petit film qui dresse le portrait d'une relation France-Afrique dans le désert avec un scénario bien ficelé. Alors pendant 1h40, en suivant Alex, on est témoin de la relation nord-sud, blanc-noir, avec des attitudes de puissants, des sentiments de supériorité et face à lui une placidité, une résignation et parfois un semblant de révolte. Alex est tour à tour odieux, pathétique ou drôle. La fable est assurément politique et prend bien, car nous ne sommes pas là seulement face à un discours, même si la mise en scène s'articule autour de scènes parfois trop bavardes et rigides, mais nous baignons bel et bien dans l'Afrique moderne, un petit village perdu qui continue à servir l'homme blanc tant qu'il a de l'argent, qui attend de ses immigrés partis en dehors des frontières un soutien, comme si le salut africain ne pouvait venir du pays lui-même. Alors Guillon, comment s'en est-il sorti? Eh bien j'aurais préféré que ce soit un autre acteur, un visage inconnu, aurait pu aussi se montrer convaincant, mais il n'empêche que, eh bien, il ne plombe pas le film, bien au contraire, d'autant que si vous n'avez pas l'habitude d'écouter Stéphane Guillon, eh bien, ça se passera plutôt bien. Donc le temps de la kermesse est terminé. C'est un film, un premier film d'ailleurs, qui est projeté au Diagonal Capitole. Avant d'en terminer avec Cinérama et puis l'agenda, eh bien, on va faire un tour du côté de Fight Club.
And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right. Your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. I don't think so. This is your life. Good to the last drop. Doesn't get any better than this. This is your life, and it's ending 1 minute at a time.
Voilà, il y a pire hein, comme tapis musical pour vous parler donc des événements de cette semaine. Donc j'ai déjà abondamment parlé de la présence d'Arnaud Despalières, donc on passe à la suite. C'est le ciné-club Jean Vigo qui propose la projection du film de Michael Powell, Une question de vie ou de mort. C'est à 20h au Centre Rabelais et c'est demain jeudi. Ce film c'est un drame fantastique hein, par le réalisateur de l'inégalé Peeping Tom, avec une histoire, celle d'un homme blessé pendant la guerre, un homme qui est en sursis et pour survivre, il lui faudra se défendre devant une cour de l'au-delà. Après de l'Olaise, demain également, eh bien, le Ciné-Club propose au Foyer Rural la projection à 20h30 du film de Eric Koo, My Magic, film chinois qui raconte comment un père par amour pour son fils va redevenir le magicien qu'il a été. Ce vendredi à 7, l'association Ciné C'est Toi propose la projection à 20h30 au Comédia du film de Arnaud Desplechin, excellent film Roi et Reine, et la séance sera suivie d'un débat et on m'indique que la reprise aura lieu le dimanche 11 à 17h30 et le lundi 12 avril à 18h. Alors c'est la reprise du film, mais est-ce qu'il y aura un débat après? Je n'en sais rien. Ce dimanche, à Metz, dans le cadre du Printival, le festival dédié à Bobby Lapointe, projection à 17h au cinéma Le Taurus du film Tiré sur le pianiste de François Truffaut, suivi d'un spectacle, eh bien, tout simplement parce que Bobby Lapointe joue dans Tiré sur le pianiste. Ce lundi, à Frontignan, dans le cadre du Printemps de la jeunesse et du dispositif Passeur d'images, le Cinémistral propose, en direction du public cadeau pour les vacances de Pâques, une journée avec Alice au Pays des Merveilles, imaginée, organisée et animée par la bande des médiateurs du Cinémistral. Alors le programme à 11h30 et ce jusqu'à 13h, c'est un banquet Alice dans le jardin du Cinémistral. De 13h à 14h30, leçon de cinéma sur l'univers de Tim Burton, animé par Frédéric Astruc, qui est maître de conférence à l'université Paul Valéry. Et puis à 14h30, la projection de Big Fish de Tim Burton et discussion sur le film. Et puis à 18h30, eh bien, ce sera un quiz sur les films de Tim Burton et la projection eh bien, de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, qui réalise un carton eh bien, partout où il est projeté. Ce lundi 12 avril à 14h, La Garce de King Vidor, ça ce sera au cinéma Diagonal, c'est une séance unique hein, dans le cadre de l'université du Tiers-Temps. Et puis on en a parlé la semaine dernière, c'est la 7e édition du festival Quilombo, c'est du 13 au 17 avril, donc festival Quilombo qui est un regard sur les cinémas d'Afrique et de la diaspora noire. Et puis bien, ça commencera bien, ce mardi 13 avril à 16h avec Arlit, Deuxième Paris d'Idrissou Morakpay. La séance sera suivie d'une rencontre avec l'écrivain Guy Combeau autour du thème l'Afrique par elle-même. Et tout cela eh bien, est à la médiathèque Federico Fellini. Voilà, ainsi s'achève Cinérama. Je vous parle aussi d'une grande première en Europe. C'est la diffusion à la télévision des films d'Hayao Miyazaki sur Arte. Ça a commencé hier avec Le Voyage de Chihiro. Ce jeudi, eh bien, il y aura Mon Voisin Totoro. Excellent, excellent, Mon Voisin Totoro à 20h35. Ensuite, eh bien, ce sera Jibi et le Mystère Miyazaki à 22h. On aura le lundi 12 Le Château Ambulant, suivra Nausicaa de la Vallée du Vent le jeudi suivant, Princesse Mononoke et Le Château dans le Ciel, grande initiative d'Arte. Alors il paraît qu'ils ont dû discuter avec Miyazaki pendant 4 ans pour offrir cette diffusion télévisée parce que Miyazaki déteste voir ses œuvres à la télévision, il préfère pour ça eh bien, les salles obscures. Eh bien, j'espère que vous irez dans ces salles obscures. On n'a pas parlé des sorties aujourd'hui, on en parlera peut-être la semaine prochaine, en espérant qu'il vienne que je ne sois plus seul à la console ni au micro. C'était Cinérama, je vous remercie de l'avoir suivi. Et on va écouter à la fin de ce générique un extrait de La Vare avec le fameux Louis de Funès. Bonne semaine à vous.
Ne feras-tu bonne chère?
Oui, si vous me donnez de l'argent.
Oh, que diable! Toujours de l'argent! Oh, ils n'ont que ce mot à la bouche! De l'argent! Tu me reparlais d'argent! Voilà le répit que je avais de l'argent! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là!
Cinérama.
Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent!
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.